VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
15h en temps universel, bonsoir, bienvenue. La coalition au pouvoir en Éthiopie a sans surprise remporté une écrasante victoire aux élections législatives de dimanche selon des résultats encore partiels de la commission électorale publiée ce mercredi. D'après l'AFP, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, a en effet d'ores et déjà raflé les 442 sièges pour lesquels le dépouillement est achevé sur un total de 547, a affirmé le président de la commission électorale, Merga Bekena. Dans la capitale Addis Abeba, l'EPRDF a remporté l'ensemble des 23 sièges, reprenant à l'opposition l'unique siège qu'elle détenait dans l'Assemblée sortante. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit. Les élections en Centrafrique, récemment reportées, doivent impérativement se tenir cette année, a déclaré aujourd'hui le ministère français des Affaires étrangères, alors que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, est en visite à Paris, reçue dans la matinée par le président François Hollande. Madame Samba-Panza, de son côté, a affirmé sa volonté de ne pas indéfiniment aller de report en report et d'organiser d'ici la fin 2015 ces élections présidentielles et législatives initialement prévues au mois d'août. Le président malgache Eri Rajao a contesté aujourd'hui la régularité d'un vote des députés appelant à sa destitution, assurant qu'il était toujours là et estimant que le pays avait besoin de stabilité pour sortir de la crise. Une très large majorité de 121 députés malgaches avaient voté hier la destitution du président démocratiquement élu en 2013. Les regards sont tournés vers la haute cour constitutionnelle qui doit désormais se prononcer sur la pertinence de la déchéance votée par les parlementaires, mais aussi le respect de la procédure. Tunisie, l'instance chargée de recenser les crimes commis sous la dictature dans le pays depuis l'indépendance du pays, a annoncé aujourd'hui le début des auditions des victimes des violations des droits humains. L'instance a pour mission en 5 années maximum de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013 sous le premier mandat sous le premier président tunisien Habib Bourguiba. Son successeur Ben Ali, contraint à la fuite par une révolution en 2011, mais aussi sous certains des gouvernements en place après le soulèvement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La FIFA a été frappée aujourd'hui par un double séisme avec l'arrestation de 7 responsables soupçonnés de corruption et par la perquisition de son siège à Zurich dans une affaire distincte portant sur l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Pourtant, l'élection présidentielle lors de laquelle Joseph Blatter, âgé de 79 ans, briguera un 5e mandat reste prévu vendredi. Jacques Aristide.
Parmi les cadres de la FIFA inculpés à la demande du Département de la justice américaine figure le Britannique Jeffrey Webb, président de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, et vice-président du comité exécutif Eugenio Figueiredo, également membre du comité exécutif, ou encore Jack Warner de Trinité et Tobago, soupçonné de violations éthiques. Le New York Times rapporte que les charges porteraient sur des opérations de blanchiment d'argent, de rackets et de nombreux détournements de fonds commis sur les 24 dernières années. Les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, mais aussi des contrats de marketing et de droits de retransmission TV, sont notamment remises en cause. Un porte-parole a déclaré que la FIFA coopère pleinement dans cette affaire, confirmant la tenue des élections pour la présidence de la fédération ce vendredi. L'actuel patron Sepp Blatter devrait être élu pour un 5e mandat.
Et la guerre contre le groupe État islamique en Irak, les forces pro-gouvernementales irakiennes continuent leur nouvelle offensive contre l'État islamique dans la province d'Anbar. Elles concentrent leur attention sur la périphérie de Ramadi, le chef-lieu de la province occupée par les djihadistes, pour bloquer les lignes de ravitaillement de l'ennemi avant d'attaquer directement la ville. L'offensive a commencé hier avec un soutien accru des États-Unis qui ont réaffirmé leur intention d'appuyer à fond les forces pro-gouvernementales après les doutes exprimés par le secrétaire américain à la défense Ash Carter concernant la détermination des militaires irakiens de se battre contre les djihadistes. Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins d'une heure, vous retrouverez Nathalie Bache pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.